Nous sommes aujourd'hui le dimanche Yud Adar, on est le 25 février. Le cours d'aujourd'hui sera pour la Refoua Shelema d'Avram ben Sultana, Shlomo Chaim ben Simcha, ainsi que pour le soldat Emmanuel Yitzhak Alexander ben Yehudit et ses camarades. En tous les cas, on va reprendre notre étude sur Purim, Mahamar de Chassidut, cet enseignement de Chassidut que nous avons commencé il y a quelque temps déjà, et je pense évidemment que vous avez oublié ce que l'on avait dit, ce qui va nous demander un bref mais important résumé pour réintroduire le cours. Je tiens juste à préciser que c'est une semaine un petit peu spéciale, nous rentrons dans Purim, donc tous les cours de la semaine seront consacrés à partir du Mahamar sur Purim. Je parle des cours donc du matin, de 8h30, heure israélienne, et les cours s'arrêteront mardi, c'est-à-dire le dernier cours sera mardi, et il n'y aura plus de cours jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire il n'y aura pas de cours mercredi, tout simplement parce que dès mercredi, nous rentrons déjà dans la période de Purim, avec le jeûne mercredi et la fête de Purim qui commence jeudi et vendredi. Donc, nous serons très, 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 très occupés. C'est la raison pour laquelle nous ne disposons que de 3 jours, dimanche, lundi et mardi. Et nous allons essayer, bien sûr, avec le cours de Kahin aussi, donc ça fait 4 cours, nous allons essayer de continuer à approfondir la fête de Purim. C'est son message afin de mieux nous préparer à cette fête. Alors, on avait donc commencé un Mahamar de Chassidut qui partait d'un verset étrange et surtout expliqué par les maîtres d'Israël. Ce verset disait dans la Megillah, Megillat Esther, « Kimu ve kiblu ha-Yehudim ». Ce n'est que, j'explique directement avec les commentaires de nos maîtres, ce n'est que pendant la période de Purim que finalement le peuple juif a véritablement réalisé, terminé, concrétisé le don de la Torah. Alors on avait bien sûr largement expliqué cette affirmation, je vais le reprendre car c'est très 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 important, je vais le reprendre d'une manière un petit peu différente. Il s'est écoulé entre le don de la Torah et Purim largement plus que 1000 ans. Le peuple juif a eu le mérite de voir à sa tête des dirigeants spirituels extraordinaires, dont le roi David et des prophètes et quantité d'autres. Le peuple juif a déjà vécu pendant de nombreux siècles avec le temple, le premier temple. Alors évidemment, nous sommes sur terre, nous ne sommes que des humains, grâce à Dieu, heureusement pour nous, la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est d'être des anges, qu'à Dieu ne plaise. Donc nous sommes des humains et grâce à Dieu, nous ne sommes pas parfaits et nous avons aussi nos défauts, nous avons nos faiblesses, nous fautons, nous chutons. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif, qui est l'échantillon de l'humanité tout entière. Il a ses hauts, grands, forts, puissants, magnifiques moments, mais il a aussi ses déchéances, ses chutes, ses faiblesses, ses fautes, ce qui nous amène à la destruction donc du premier temple, et on se retrouve donc à l'époque de Purim, pendant cette période d'exil qui dure à peu près 70 ans, vers la fin des 70 ans, avant que le deuxième temple soit reconstruit. Donc comme je le disais, il s'est écoulé de très 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 nombreux siècles avec aussi de magnifiques périodes sur le plan spirituel, moral, à tous les niveaux, et malgré tout, nos maîtres affirment, à partir donc de ce verset extrêmement bizarre dans la Megillah, que ce n'est seulement à l'époque de Purim que finalement le don de la Torah est terminé. Il faut comprendre que finalement que la Torah est véritablement intégrée dans le peuple juif, qu'elle fait véritablement partie de l'ADN du juif, qu'il respire la Torah, il est Torah, il n'y a plus de différence entre la Torah et lui. Je parle bien sûr du peuple juif et je ne parle pas de chaque individu en particulier, mais au niveau du peuple juif, en tant que klal, en tant que collectivité, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé, nous sommes toujours le peuple de la Torah, et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, depuis fort longtemps, tout celui qui vit et qui vient et qui sait visiter avec de bons yeux et de bons guides la terre d'Israël s'aperçoit avec stupéfaction, et même pour nous, juifs, on reste stupéfaits de voir le nombre inimaginable de centres d'études, d'écoles talmudiques, d'endroits où on étudie, où on enseigne la Torah sur un si petit territoire qui est à peine grand comme l'Alsace et la Lorraine. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Mais, et ceci après, ne serait-ce que ces deux derniers millénaires d'exil, pour ne pas citer les autres, où le peuple juif avait toutes les bonnes raisons de tout envoyer balader, surtout après la Shoah, et malgré tout, non seulement il n'y a pas eu d'affaiblissement dans la Torah, mais aujourd'hui, partout dans le monde, et en Israël particulièrement, les synagogues sont pleines, les centres d'études fleurissent comme des bourgeons au printemps. C'est phénoménal ce qui se passe, ce retour vers la Torah aujourd'hui, plus que jamais dans notre histoire. Alors, au point que même la Torah se diffuse, comme vous le savez tous et toutes maintenant, aussi dans le monde non-juif. Donc il y a tellement de Torah que finalement ça déborde même à l'extérieur du peuple juif. Donc, nos maîtres nous disent que la connexion, on pourrait dire éternelle, définitive, entre Israël et la Torah a eu lieu à l'époque de Pourim. Alors la question était bien évidemment, mais pourquoi pas à l'époque de Moshe, tout simplement, au moment du don de la Torah? Pourquoi pas à l'époque de Yehoshua, au moment où le peuple juif s'installe sur sa terre? Pourquoi pas aux époques où nous étions guidés par des justes authentiques, comme de nombreux juges, ce qu'on appelle les Shoftim? La plupart d'entre eux étaient des hommes extraordinaires, comme Shmuel le prophète, ou avant lui Yiftar, ou d'autres, peu importe. Et à plus forte raison à l'époque du roi David, à l'époque des prophètes, pourquoi attendre Pourim, qui, d'une certaine manière, représente tout le contraire de ces époques merveilleuses, puisque nous sommes en exil, ce qui veut dire que nous avons fauté, drôlement fauté, pour avoir été la cause de la destruction du temple et se retrouver en exil. En plus, on se retrouve dans une situation où on veut nous exterminer. Et bien évidemment, ça je ne l'ai pas dit dans le précédent cours, mais tout le monde comprend que si on en est arrivé à une situation pareille, c'est clair que non seulement on n'a pas réparé là où les fautes qui nous ont amenés à la destruction du temple et à l'exil, mais peut-être pire encore, même en exil on a continué à tomber, sinon on ne serait jamais arrivé à une situation où Aman pensait nous exterminer. Il est clair que c'est l'ABC, l'alef bet, de le fondement de la pensée juive. Tout ce qui se passe en bas a forcément une racine en haut. Ça veut dire que si le mal est si fort en bas, c'est que d'une certaine manière, le mal est très fort en haut aussi. Et si le mal est très fort en haut, c'est clair que nous, juifs, nous avons une grande part de responsabilité dans le renforcement du mal en haut, par nos fautes, par nos erreurs, et par tout ce que nous faisons de mal. Donc automatiquement, si on arrive, encore une fois, non seulement il n'y a plus de temps, non seulement on est en exil, mais en plus on veut nous exterminer, on peut imaginer que le niveau d'Israël était très 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 bas. Et c'est précisément à ce moment-là que le don de la Torah est scellé. Alors l'explication qu'on a commencé à donner, c'était à la fin du cours, c'est qu'il y a eu justement à ce moment-là, quelque chose qu'Israël n'avait jamais pu expérimenter, comme un réveil qui, justement, n'est possible que dans des situations extrêmes où ce qu'il y a de plus profond, de plus caché, enfoui au plus profond de l'âme, du conscient et surtout de l'inconscient, se révèle, des forces inimaginables qui, encore une fois, ne peuvent se révéler que dans les moments d'extrême obscurité et danger. Et qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment-là? La force de Messirut Nefesh, en français, finalement, la prise de conscience du peuple juif, par le peuple juif, qu'ils étaient prêts à mourir, mais pour rien au monde, annuler, abandonner leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui est un point extrêmement important. Je voudrais m'arrêter quelques minutes sur ce point-là, parce que c'est une notion qui est longuement et constamment reprise et réexpliquée dans les textes de Chassidout. Je l'ai moi-même expliqué de nombreuses fois dans d'autres cours. L'être humain est composé de deux dimensions, de deux parties. Ce qu'on appelle le galouï et le etzem. Le galouï, ça veut dire la partie visible, et le etzem, c'est-à-dire l'essence. Et les secrets de la Torah, et tout particulièrement la Chassidout, qui a fait de ce point-là l'un de ses points d'explication essentiels, la Torah nous explique, donc les maîtres des secrets, et la Chassidout nous explique que finalement, que l'être véritable n'est pas l'être visible. L'être véritable se trouve au niveau du etzem, c'est-à-dire de l'essence de l'être, qui généralement est complètement voilé, caché, séparé de ma conscience, et cette essence-là ne peut se révéler que dans des moments extrêmement particuliers, généralement des moments qui me demandent pour m'en sortir d'aller chercher, d'aller fouiller au plus profond de mon être. C'est-à-dire que mon être visible est non seulement très fragile, mais très superficiel, très artificiel. Malheureusement, on passe pratiquement toute sa vie à ne vivre qu'avec son être visible. Et la plupart d'entre nous quitteront ce monde sans s'être jamais rendu compte qu'ils avaient au plus profond de cet être visible, fragile et artificiel, qu'ils avaient un être beaucoup, beaucoup plus essentiel, beaucoup plus profond, qui s'appelle Etzem, en français, l'essence, l'essentiel, parce que c'est mon être véritable. Et pour que cet être, encore une fois, essentiel, véritable, se révèle, tu dois être dans une situation catastrophique. Ça veut dire que c'est ta force de salut. Si elle ne se réveille pas, si tu ne te connectes pas à elle, tu es fichu. Nos maîtres expliquent aussi quelque chose d'extrêmement fort, c'est que toutes les fautes, toutes les erreurs, tout le mal qu'un homme peut faire, je parle du mal adamique, attention, je ne parle pas, comme je le dis souvent, de ce qui n'est plus le mal, mais ce qui est l'abomination totale. Mais bon, les colères, les jalousies, les fautes, le mal standard, même grave, mais le mal standard d'un adamique, tout le mal qu'un homme peut faire ne porte atteinte, n'abîme que son être extérieur, mais ne peut pas atteindre l'essence. Nos maîtres expliquent que c'est ça l'avantage en même temps que l'inconvénient. Pourquoi Hachem nous a créés avec notre être essentiel qui est caché au plus profond de nous, au point que, comme je l'ai dit, on peut malheureusement passer toute sa vie sans être connecté à cet être profond. Alors l'une des raisons est justement pour protéger notre être véritable. Parce que si notre être véritable était lui aussi visible, dévoilé, à chaque fois que l'on faute, et c'est impossible de ne pas fauter, à chaque fois que l'on faute, on porterait atteinte à cet être essentiel, on l'abîmerait, et comme dans les films, quand à l'époque... on s'attaquait à une forteresse, alors on venait avec des, je ne sais plus comment on appelle ça, vous m'avez compris, pour taper contre la muraille jusqu'à ce qu'elle s'écroule, et puis après il n'y a plus de muraille, et puis on peut rentrer, etc. Exactement de la même manière, les fautes sont comme des coups que l'on reçoit, que l'on se donne nous-mêmes à notre être, au point de le détruire. Et si l'être essentiel était lui-même visible, les fautes détruirait cet être essentiel et il ne nous resterait plus rien pour continuer après. D'abord pour faire teshuvah. Comment fait-on teshuvah? Comment un être peut revenir après avoir passé des années, des décennies à fauter? Parce que justement, Ce n'est que son être extérieur, l'accessoire, le fragile, malheureusement le seul que l'on connaît, mais ce n'est que lui qui a été abîmé, mais pas l'être véritable. Donc la teshuva, le retour, c'est tout simplement le fait de se connecter à cet être véritable qui lui est intact. Et c'est pour ça que très vite, on se sent complètement renouvelé, on se sent complètement transformé, au point que, comme je l'ai souvent expliqué dans d'autres cours, au bout d'un certain temps, on n'arrive même plus à comprendre comment on a pu fauter. Parce que celui qui a fauté, ce n'était pas vraiment nous. Maintenant, on vit avec notre être véritable, et lui n'a jamais été concerné par nos fautes. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le maître du monde cache cet être véritable à l'intérieur de nous, pour justement pour le protéger, pour le préserver. Mais, donc, on a ces deux points. Il est caché. Ce qui est un inconvénient, c'est que je peux malheureusement vivre toute une existence dans le superficiel, dans l'artificiel, dans le pas vraiment moi, c'est pas vraiment celui que je suis. Mais d'un autre côté, c'est pour le et me protéger. Et enfin, comme on a expliqué, il faut, pour que cet être se dévoile, il faut être dans une situation de tension, de on pourrait dire d'oppression inimaginable, au point qu'on sent que l'être que je croyais être moi-même ne peut plus m'apporter ni d'aide, ni de force, ni de réponse. J'ai besoin de quelque chose de différent pour continuer, et puis hop, je me connecte à cet être intérieur. Alors maintenant, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'on voit ici un enseignement absolument extraordinaire, mais fabuleux. On aurait pu imaginer que par le fait qu'un juif étudie profondément, intensément la Torah, par le fait qu'il accomplit tous les commandements, par le fait qu'une génération ait à sa tête des êtres d'élite comme David, comme les prophètes, comme les juges, comme d'autres, comme Moshe lui-même à l'époque du don de la Torah, on aurait pu imaginer que cela en soi suffit pour se connecter à l'être essentiel. Eh bien non. Voilà que la Torah nous révèle ici quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu peux être quelqu'un qui étudie, qui accomplit les commandements, qui prie, qui a une vie morale, spirituelle, inimaginable. Tu atteins effectivement des niveaux inimaginables. Mais pour dévoiler et te connecter à ton être véritable, ce n'est possible, je dis entre parenthèses, malheureusement, que si tu es dans des situations, dans une situation d'extrême anormalité qui t'oblige à aller chercher au plus profond de toi une bouée de sauvetage, sinon tu vas crever, et cette bouée de sauvetage, c'est ton essence qui est ton être véritable. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif, et c'est ce qui se passe toujours avec le peuple juif. Comme on le sait, donnons un exemple dans la vie de tous les jours, pour nous c'est presque du tous les jours, on sait très bien que 2 juifs, 3 avis, pour ne pas dire 10 aujourd'hui, et que dis-moi ce que tu dis pour que je puisse dire le contraire, c'est malheureusement à la fois le défaut et la qualité des juifs, c'est que ils sont toujours en train de discuter, ils ne sont jamais d'accord, et Dieu sait combien de dissensions et combien d'extrêmes et combien de folies à l'intérieur de notre peuple, jusqu'à des idéologies à l'extrême opposé les unes des autres, dans un si petit peuple, sur un si petit territoire. Mais bon, comme je dis toujours, le peuple juif, c'est l'œil du cyclone, ça veut dire c'est là où tout se joue, donc si ça marche chez lui, ça marchera pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, et toutes ces dissensions, toutes ces querelles et toutes ces idéologies extrémistes qui nous séparent les uns des autres, mais quand il y a la sirène qui retentit et que Israël sait qu'il est en danger, à ce moment-là, il y a une réunification, une réunité, c'est pas du français, vous avez compris, une force, une énergie qui traverse chacun d'entre nous, au point que l'étranger que je détestais parce qu'il a des idées qui me paraissent être de la folie pure, en quelques secondes, je l'aime plus que mon père ou ma mère. Et ne parlons pas de mon père et ma mère. C'est tout d'un coup, pourquoi? Parce que l'essence se dévoile, et au niveau de l'essence, on est un peuple un, parce qu'on provient tous de la même source. Et donc, on oublie toutes nos différences, l'être extérieur s'écroule complètement, on est bombardé, on est en guerre, on est en danger, mais Qu'est-ce que je me fiche de savoir si tu es d'extrême gauche et tu veux rendre la Judée, la Samarie, si tu veux partager Jérusalem? Mais j'en ai plus rien à outre, ça m'intéresse même pas. Tu es juif, je suis juif, on se sert l'un contre l'autre, on est prêt à mourir ensemble pour sauver notre peuple et notre terre. Et donc, parce que l'essence se réveille. Mais dans la vie de tous les jours, non, absolument non. Ce qui veut dire que, encore une fois, il n'y a que des situations d'extrême violence, d'extrême panique, d'extrême peur qui révèlent l'essence au niveau de laquelle finalement toutes les différences extérieures tombent parce qu'on se rend compte que c'était seulement notre être superficiel qui nous éloignait les uns les autres. Mais dans notre essence, on est tous un. Et donc ça s'est toujours passé de cette manière-là pour le peuple juif, toujours dans les périodes justement de grands malheurs, de grandes souffrances, le peuple juif retrouvait une unité quasi divine qui lui redonnait cette force finalement qui fait de lui un peuple éternel. Parce qu'au niveau de son essence, il est constamment dans l'éternité puisque l'essence de l'homme provient d'Hachem lui-même, c'est lui qui a créé Adam. Et donc automatiquement, à partir du moment où l'essence se réveille, c'est le divin en moi qui se réveille, et le divin est, comme son nom l'indique, est éternel, donc indestructible. La première fois dans notre histoire que cette essence divine, cachée, enfouie au plus profond du peuple juif, la première fois qu'elle s'est révélée, c'était à Pourim. Parce qu'il est évident qu'avant Pourim, on avait déjà été confronté à des milliers de dangers. Mais jamais des dangers, on pourrait dire, aussi extrêmes, aussi incontournables que celui-là. Il y a eu des guerres, mais quand il y a une guerre, malgré tout, on peut se défendre. Et la quasi-totalité, sauf celle qui a amené la destruction du premier temple, d'où l'exil après et d'où la période de Pourim, mais jusqu'à la destruction du premier temple, toutes les guerres menées par Israël, donc pendant plus de 1000 ans, on les a toutes gagnées. Bien sûr, il y a eu des morts, des blessés, mais on les a toutes gagnées. Donc, c'est sûr qu'il y a eu énormément de moments de danger, de moments de peur, de moments de souffrance. Car même une guerre gagnée s'accompagne malheureusement toujours de morts et de blessés, donc de souffrance et de deuil. Mais malgré tout, nous pouvions nous défendre. Donc automatiquement, on n'avait pas besoin d'aller chercher au plus profond de l'extrême dernière minute, et si tu ne trouves pas, t'es mort. Parce que, il y avait, encore une fois, il y avait l'épée, il y avait l'armée, il y avait tout ce qui, d'une certaine manière, donne une certaine confiance à l'homme et l'empêche, paradoxalement, d'aller chercher d'autres forces que celles de son épée. Mais à l'époque de Pourim, on est un peuple exilé. Face au premier Hitler de l'histoire, tous les trains de déportation sont déjà en gare, le compte à rebours a commencé, Israël n'a pas d'armes, il est démuni de tout. Haman a reçu la permission de Assuérus de prendre avec lui pas seulement des Amalécites, mais tous les peuples, des mercenaires de tous les peuples qui voudraient l'accompagner. Partout où sont les Juifs, ils sont entourés de gens qui vont les massacrer. Il n'y a aucune autre possibilité pour s'en sortir que d'aller chercher en soi la force de la dernière minute, de la dernière seconde, ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'on reste fort, sans armes, mais la seule force qu'on a, c'est qu'on ne pliera pas. On préfère mourir libre que vivre soumis. On préfère mourir à... On préfère mourir debout que vivre à genoux. On préfère mourir juif que vivre en ayant renié son identité. C'est la dernière chose qui nous reste à ce moment-là. On va mourir, mais au moins on va mourir juif. Et ça s'est toujours passé dans l'histoire de cette manière-là, comme on le sait malheureusement dans toutes les périodes de souffrance des juifs qui, dans la vie de tous les jours, étaient... des juifs à la limite ou qui l'avaient dépassé dans le mauvais sens du terme, tout d'un coup, face à une menace, face à un danger, prosterne-toi devant la croix où je te tue. Il se laissait tuer sans la moindre hésitation. mais pourtant, il y a encore une semaine, c'est tout juste si tu respectais Shabbat, c'est tout juste si tu mangeais le kasher. Et ne fouillons pas trop dans ta vie privée parce que... Et tout d'un coup, tu es prêt à mourir sur le bûcher, tu es prêt à être décapité pour ne pas te prosterner. D'où ça te vient? Parce que c'est plus le même. Dans la vie de tous les jours, il vivait avec son être extérieur, et son être extérieur, c'est un être abîmé. Mais au moment où il doit choisir entre renier son identité ou mourir, eh bien, il préfère mourir. Parce que ce n'est plus son être extérieur qui parle, c'est son être intérieur. Et l'être intérieur, il est du niveau de Moshé. Et peut-être plus encore. Car l'être intérieur d'un adamique est une parcelle du divin. Comme le Tanya l'explique, que l'âme s'appelle Elo-Echelek, Elo-Amima'al, une partie du divin d'en haut. Avec le divin, on ne peut pas faire peur au divin, on ne peut pas anéantir le divin. Le divin est éternel. Donc l'identité juive exprimée par l'essence, lorsqu'elle se révèle, est au-dessus de toute menace, de toute peur, de toute... C'est impossible. Elle est au-dessus de tout. Et donc, quel est le rapport avec le don de la Torah? Je pense que vous l'avez compris. Jusqu'à ce moment-là, la Torah avait été donnée. Mais comme l'être véritable de la nation d'Israël, je parle au niveau de la collectivité, n'avait jamais eu l'occasion de se révéler véritablement, puisque jamais le peuple juif n'avait été dans cette situation d'extrême limite où si tu ne révèles pas ton être intérieur, tu es mort dans le vrai sens du terme. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort identitaire. Donc automatiquement, quand la Torah avait été donnée, elle n'avait été donnée qu'à l'extériorité de l'être de la nation d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on explique. Même au moment du don de la Torah, même au moment où le temple était inauguré, dans les époques les plus éblouissantes sur le plan spirituel, tout ne se passe qu'au niveau de l'extériorité de l'être. L'être profond n'est pas encore touché. Et donc, le don de la Torah n'avait été donné qu'à l'extériorité de la nation d'Israël. Mais pour que la Torah rentre dans l'intériorité, dans l'essence de la nation d'Israël, il fallait qu'Israël soit placé dans une situation où, sans ce dévoilement de l'intériorité, il va disparaître en tant que peuple juif. Le test, c'était le test de Pourim. Il a réussi, et tout s'est transformé en dernière minute, et le peuple juif a survécu. Évidemment. À partir du moment où tout Israël a dévoilé son intériorité, qui est une partie du divin, automatiquement, il ne peut pas disparaître. C'est impossible. Et à ce moment-là, la Torah est passée de l'extériorité de l'être à l'intériorité de l'être. Et c'est la raison pour laquelle le verset, nos maîtres expliquent que le don de la Torah n'a été véritablement scellé, terminé, qu'au moment de Pourim, parce que ce n'est qu'au moment de Pourim que la Torah est rentrée dans l'essence de la nation d'Israël. C'est une explication fabuleuse. Vous comprenez maintenant pourquoi, grâce à cela, nos maîtres expliquent que la fête de Pourim restera, à partir de la délivrance finale, comme le symbole de toutes les fêtes d'Israël, la plus haute de toutes. Certains vont même jusqu'à dire que toutes disparaîtront sauf celle-là. Il y a d'autres avis, je ne pense pas comme ce que je viens de dire, je pense plutôt comme d'autres avis qui disent qu'elle sera au-dessus de toutes et elle sera d'une certaine manière la couronne de toutes les fêtes d'Israël, mais pas que les autres fêtes vont disparaître. Mais quoi qu'il en soit, elle sera la couronne, le modèle fondamental. Pourquoi? Parce que tant que l'essence d'Israël ne s'est pas révélée, tant que la Torah n'a pas quitté l'être extérieur et n'est pas rentrée dans l'essence, automatiquement, toute l'identité juive est encore une identité superficielle, artificielle. Et toutes les fêtes sont différents moments, différentes étapes qui nous amènent à Pourim, c'est-à-dire différentes étapes vers le dévoilement de l'être intérieur symbolisé par la fête de Pourim. On comprend donc maintenant aussi quelque chose d'absolument incroyable qui est aussi l'un des fondements de la pensée juive face aux malheurs, aux épreuves, aux souffrances qu'Israël a traversées durant toute son histoire. Malheureusement, une positivité de la souffrance. Ce n'est plus une punition, mais c'est, on pourrait dire, une étape fondamentale, nécessaire pour te construire réellement. J'ai souvent expliqué dans d'autres cours comment faire la différence entre une épreuve, qui en hébreu se dit un nissayon, dont la traduction signifie t'élever, car le mot nes veut dire élever, incroyable, mais le mot épreuve, éprouver quelqu'un en hébreu signifie le faire grandir, c'est dans le mot lui-même. Comment savoir si je suis éprouvé ou puni? Vu de l'extérieur, deux personnes peuvent subir la même souffrance, vivre le même drame. Pour l'un, ça va être un nissayon, donc une épreuve, c'est positif, et pour l'autre, ça va être une punition. Comment savoir? Eh bien, l'un des critères pour savoir, ce n'est pas le seul, mais en tous les cas, c'est le plus important, c'est comment tu vas le vivre. Si l'épreuve te sert de tremplin, si la souffrance te sert de tremplin, d'épreuve pour t'élever plus haut encore, c'est la preuve que c'était une épreuve. Mais si tu t'écroules, c'est la preuve que c'était une punition. Parce qu'une épreuve ne peut en aucun cas te faire tomber, elle ne peut que t'élever. Au moment où la chose arrive, tu ne peux pas le savoir, puisque l'épreuve ne se différencie en rien de la punition. Mais ça dépend comment toi tu vas le vivre. Si tu es méritant, tu vas le vivre comme une épreuve, tu vas t'élever. Si tu n'es pas méritant parce que tu es dans la faute et que tu ne veux pas t'en sortir, tu veux rester dans la faute, ça va devenir une punition, ça veut dire qu'au lieu de t'élever, tu vas t'écrouler. C'est toi qui vas, d'une certaine manière, décider ce que la souffrance sera pour toi. Elle n'est pas, on pourrait dire, décidée au départ. Hachem ne décide pas d'envoyer pour l'un une punition ou pour l'autre une épreuve. Hachem envoie ce qu'il envoie. Maintenant, c'est à toi de donner à cette difficulté le nom qui ne dépend que de toi, épreuve ou punition. C'est pour ça que quand quelqu'un vient et il veut justifier ce qu'il est devenu malheureusement par les épreuves qu'il a traversées, bien qu'à Dieu ne plaise, ce n'est pas à nous de juger et surtout pas de le juger, mais quoi qu'il en soit, s'il dit, regardez, après tout ce qui m'est arrivé, et qu'est-ce que vous espériez, que je sois autrement que comme je suis, très bien, on ne répond pas. Mais dans notre fond intérieur, on n'est pas d'accord. Parce que ce qui t'est arrivé, mais c'est toi qui as décidé que la manière dont tu as réagi, c'est celle que tu as choisie. C'est ton choix à toi, c'est pas l'épreuve, c'est pas la difficulté qui t'a amené là. Parce que la difficulté était peut-être pour t'aider à dévoiler ton être intérieur qui aurait fait de toi un géant aujourd'hui. Et au lieu d'être un géant aujourd'hui, tu es un chiffon qui traîne par terre. Donc n'accuse pas le maître du monde. N'accuse pas la difficulté. C'est toi qui as choisi la manière de la vivre, de l'interpréter et de l'intégrer. Monter ou s'écrouler. Et Pourim est donc un exemple extraordinaire, justement. Quelque chose qui a failli être le moment de notre extermination devient le symbole de la fête la plus haute. Parce que Israël, bien sûr par le mérite de Mordechai et de Esther, qui étaient les deux leaders qu'il nous fallait à ce moment-là, ils ont su justement comprendre que malgré l'énormité du drame, et à quelques heures près, c'était peut-être la fin d'Israël, il ne dépendait que de nous de ne pas se laisser impressionner par l'horreur et de comprendre qu'il s'agissait peut-être justement d'un catalyseur pour dévoiler enfin, depuis plus de 1000 ans, de dévoiler enfin l'essence d'Israël qui n'avait jamais pu se dévoiler. Et c'était peut-être l'occasion qui nous était donnée pour justement avoir une connexion avec la Torah, donc avec le maître du monde, comme jamais nous n'avions eu auparavant. Et que cette connexion étant faite, c'est elle qui allait assurer notre survie jusqu'à la délivrance finale. Là, je rajoute une nouvelle notion. C'est que pas seulement Pourim a scellé le passé, pas seulement Pourim a terminé le don de la Torah en faisant passer la Torah de notre être extérieur à notre être intérieur, mais plus encore, Pourim a préparé tout l'avenir d'Israël. Parce qu'Israël allait être confronté encore de nombreuses fois dans des situations catastrophiques comme celle de Pourim, dont la dernière il y a 70 ans. Le maître du monde savait très bien que l'histoire juive ne serait pas Alice au pays des merveilles. Il y aurait encore une destruction du temple, le deuxième. Il y aurait encore une dispersion plus grande et plus grave et plus dramatique encore que la première, après la destruction du premier temple. Il y aura encore des siècles de souffrance, dont deux millénaires de souffrance, ce qu'on appelle le dernier galout, le galout de Édom. Le maître du monde savait très bien que si cette essence ne se dévoile pas, Israël ne pourra pas traverser l'histoire. Donc vous comprenez le cadeau inimaginable, inimaginable, inimaginable de Pourim. Vous comprenez pourquoi Pourim se fait dans la joie, dans l'explosion de joie, des fois même qui dépasse les limites. On boit à Pourim, on chante à Pourim, on danse à Pourim, on perd un petit peu la raison à Pourim. On sort complètement de nos limites. Comme pour montrer qu'on est conscient qu'il y a un dévoilement inimaginable ce jour-là. Et on essaie justement de sortir de nos limites pour essayer justement de capter l'infini. Toute l'histoire d'Israël, toute la survie du peuple juif s'est jouée à Pourim. On peut sans doute dire sans le moindre problème que l'un des plus grands libérateurs, l'un des plus grands, j'aime pas le mot, excusez-moi, je vais dire un gros mot, j'ai honte, l'un des plus grands sauveurs d'Israël a été Mordechai. Parce qu'il a scellé le don de la Torah et préparé et assuré l'éternité d'Israël. C'est inimaginable ce que cet homme a fait. Inimaginable. Alors maintenant, bien sûr, il reste une question à traiter absolument incroyable. Vous voyez comment sur quelques phrases d'un Mahamar de Chassidou, tout ce que l'on peut expliquer et révéler, c'est phénoménal. Il reste une question, bien sûr, énorme que je voudrais traiter avant de voir si vous avez posé des questions. Je vous invite donc à commencer à poser des questions si vous en avez. Dans 10 minutes à peu près, on va aller aux questions. Donc, tout ça, c'est bien beau. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit et comme c'est évident, Pourim est malgré tout la conséquence de fautes. Alors, une question évidente se pose. La faute, c'est pas quelque chose qui fait partie du plan divin. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'à partir du moment où le maître du monde nous a créé comme il nous a créé, il sait très bien qu'on va fauter. Mais d'un autre côté, je veux dire, la faute n'est pas perçue dans le judaïsme comme une chose qu'il faut absolument faire. On essaye par tous les moyens de l'éviter, même si on sait qu'elle est inévitable. De toute façon, notre devoir est de toute façon de tout faire pour l'éviter. Or là, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, se pose une question qui est très 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 connue quand on étudie les choses au niveau où je le transmets moi-même, donc d'une manière très profonde. On ne se contente pas uniquement de l'aspect visible de la Torah, mais on cherche dans la Chassidou, dans les secrets de la Torah. Il s'avère donc que si Israël n'avait pas fauté, si le premier temple n'avait pas été détruit, si on n'avait pas continué à fauter en exil pour malheureusement voir Aman vouloir nous détruire, si donc il n'y avait pas eu toutes ces fautes, on n'aurait donc pas eu la possibilité de dévoiler notre essence. Et or, on est en train d'expliquer que si on n'avait pas dévoilé l'essence, il n'y aurait jamais eu véritablement de don de la Torah. Ce n'est pas notre être intérieur qui aurait été connecté avec la Torah. De même, on n'aurait pas pu assurer l'éternité d'Israël. Donc il fallait, quoi qu'il en soit, les fautes pour en arriver là. Or, c'est absolument évident, et ça, on ne doit pas chercher à dire le contraire, que la faute est une abomination. Et qu'on ne veut pas fauter, même si on sait malheureusement qu'on fautera, on ne veut pas fauter. Donc on ne peut pas dire que la faute fait partie d'un processus voulu, pensé dès le départ. Donc comment concilier le fait que c'est grâce aux fautes qu'on en est arrivé à cette situation-là, et en même temps, nous ne devons pas fauter. Alors comment on peut dévoiler l'essence? Comment on peut dévoiler l'essence? Alors, je vais commencer un début de réponse. Et c'est extrêmement subtil, extrêmement fin, je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre. En vérité, et on le revient toujours, vous savez que dans la tradition juive, et surtout au niveau des secrets de la Torah, c'est toujours la même chanson avec les mêmes paroles et on s'en lasse jamais. Tout a commencé avec la faute de Adam et de Ève, Adam et Chava. Jusqu'à la faute, l'être intérieur et extérieur étaient connectés. Il y avait un pont entre les deux et l'être humain arrivait facilement à passer de l'un à l'autre. Quand il vaquait à ses occupations quotidiennes, mondaines, il vivait surtout avec son être intérieur, mais dès qu'il en avait besoin, tout de suite, à un moment de vie plus profond, tout de suite il se connectait à son être intérieur. Un petit peu l'image de quelqu'un qui travaille, mais qui a aussi une maison, qui a une vie heureuse avec son épouse, sa famille, ses enfants, et qu'il vit à l'intérieur, à l'extérieur, pour son frère, mais dès qu'il rentre à l'intérieur, il ferme son portable, il oublie tout, il est avec sa femme, ses enfants, et une nouvelle vie. Il y a juste la porte à ouvrir et à embrasser la mezouza et il rentre. Malheureusement, la faute de Adam a créé un mur de béton, comme disent nos maîtres, entre l'être intérieur et l'être extérieur. Ou, d'une autre manière, le pont a sauté. Il n'y a plus de pont entre les deux. Au point qu'on a fini par complètement oublier notre être intérieur. C'est précisément l'oubli de l'être intérieur qui nous amène à la faute. Parce que, tant qu'on est connecté à son être intérieur, on ne peut pas fauter. Parce qu'il est évident que la faute est un acte d'une superficialité, d'une hypocrisie, d'un mensonge tel qu'un homme qui vit avec son intériorité, il peut même pas comprendre la faute, ça l'intéresse pas. C'est ce qui fait que la plupart d'entre nous, il y a des fautes qu'on ne pourrait même pas imaginer faire. Même si on nous donnait 1 milliard d'euros pour les faire, on ne comprendrait même pas la question. Parce que par rapport à ce genre de faute, on est connecté à notre intériorité. Notre intériorité nous fait sentir que c'est... Et pour tout l'or du monde, ça n'a aucun sens. Malheureusement, on n'est pas connecté dans tous les domaines à notre intériorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas un homme qui ne faute pas. Et qui ne faute pas plusieurs fois et souvent. Parce que ce ne sont que dans des cas très extrêmes qu'on est connecté à notre intériorité. Par exemple, ne tue pas ou des choses comme ça. Mais donc, c'est la faute d'Adam qui a séparé les deux êtres et qui a amené justement l'être à ne vivre qu'avec son extériorité. Et dans le monde de l'extériorité, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, parce qu'on est de toute façon très artificiel. Donc à partir du moment où tu n'es plus connecté à ton intériorité et que tu vas fauter, la seule chose qui reste au maître du monde pour nous ramener à l'essence, c'est le choc. Un petit peu comme aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un a un arrêt cardiaque, on amène de grosses machines et on lui donne un coup d'électricité pour essayer de le faire revivre. Ça marche. Très souvent, ça marche. Très souvent, ça marche. Et donc, c'est exactement ça. Mais si on n'était pas arrivé à être dans cet état-là, on n'aurait pas besoin d'apporter des grosses machines et le gros choc électrique pour revivre. Donc évidemment que dans le sens absolu, le maître du monde aurait préféré que Adam ne fasse pas ce qu'il a fait, qu'il ne sépare pas l'être intérieur de l'être extérieur, qu'il ne laisse pas la faute devenir son quotidien, et que le maître du monde ne soit pas obligé d'apporter des grosses machines électriques pour nous bombarder de coups pour qu'on puisse se réveiller. Mais la situation étant ce qu'elle est, c'est malheureusement la situation qui va prévaloir jusqu'à la délivrance finale. Qu'est-ce que va être la délivrance finale? Eh bien, la reconnexion entre l'être intérieur et l'être extérieur. Quand on dit que le mal va disparaître, que les souffrances vont disparaître à partir de la délivrance finale, c'est d'une manière très simple ce à quoi nos maîtres font allusion. C'est que la faute n'est que la conséquence de la coupure entre les deux êtres, Les épreuves et les souffrances ne sont que le seul moyen que le maître du monde a trouvé pour nous ramener à l'être intérieur. Mais tant qu'on est dans le monde de la faute, mais quand on ne sera plus dans le monde de la faute, c'est-à-dire lorsqu'on aura reconnecté les deux êtres, le mariage finalement entre l'homme et la femme, les deux dimensions qui sont à l'intérieur de l'être, on revient toujours encore une fois à la même chanson, il y a l'être intérieur qui est le masculin, l'être intérieur qui est la dimension féminine, l'être extérieur, puisque c'est l'homme qui est à l'extérieur, qui est la dimension masculine, et le masculin est séparé du féminin. L'être intérieur, c'est la dimension féminine, dans le sens biblique du terme, où la femme est plutôt cachée à l'intérieur de sa maison, et l'homme, c'est lui qui est à l'extérieur. Les deux dimensions sont séparées, je parle bien sûr selon les images bibliques. Donc, les deux êtres sont séparés, ils doivent se retrouver, le couple est séparé. Jusqu'à aujourd'hui, de toute manière, même si les formes ont changé, le fond, lui, n'a pas changé. Et donc, à partir du moment où les deux êtres sont retrouvés, il n'y a plus de faute. Et s'il n'y a plus de faute, il n'y a plus besoin de souffrance. Donc il faut comprendre que toute cette histoire de l'épreuve qui, si elle est bien accusée, si elle est bien vécue, l'épreuve qui construit l'homme, c'est une situation qui est liée malheureusement à la faute d'Adam Harishon, qui est liée justement à la séparation entre l'être intérieur et l'être extérieur. Et tout le projet d'Israël est de petit à petit reconstruire la connexion entre ces deux êtres pour lui et après pour l'humanité tout entière, au point que automatiquement la faute et la souffrance disparaîtront. C'est le monde de la délivrance finale. Donc on a répondu plus ou moins à la question. Maintenant, d'une manière plus concrète, dans le monde d'aujourd'hui aussi, c'est évident que plus un homme vit, essaye de vivre d'une manière de plus en plus profonde, en faisant des choix authentiques, en faisant toujours des choix essentiels. C'est évident qu'il se protège malgré tout beaucoup plus de la faute et donc de la souffrance qu'un autre. Parce que justement, étant quelqu'un qui cherche l'intériorité, se connectant plus à son intériorité, il faute donc moins. Et fautant moins, et il a moins de souffrance. Alors maintenant, ce que je dis est contredit par, évidemment, d'autres enseignements de nos maîtres et la réalité, je vais l'expliquer moi-même, pourtant nos maîtres nous disent que c'est précisément les justes dans ce monde qui souffrent plus que les méchants, ça contredit pas du tout ce que j'explique, au contraire, ça le confirme lorsqu'on comprend profondément la Torah. Parce que c'est justement ce que nos maîtres nous disent. Quand Hachem voit que quelqu'un est très 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 profond, qu'il cherche à se connecter à son intériorité, alors Hachem justement, pendant un certain temps, lui envoie différentes épreuves pour l'aider à aller plus vite encore dans sa reconnexion avec son intériorité. Justement. Mais un être profond, un être véritablement intérieur, s'il fait le bilan total de sa vie, il s'apercevra qu'il aura vécu beaucoup, 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 beaucoup plus de grands, bons, extraordinaires moments que des moments de souffrance. Et il comprendra rétroactivement que les moments de souffrance étaient des cadeaux du ciel justement pour l'aider, puisque Hachem voit qu'il veut arriver à cette connexion intérieure. Donc c'était des cadeaux que Hachem lui envoie justement pour aller plus vite encore dans cette reconnexion des deux êtres. Parce que Hachem sait qu'il va tenir le coup, parce qu'il est fort et parce qu'il a compris le principe. Et qu'il ne va pas se mettre en colère, il ne va pas se fâcher contre le bon Dieu. Donc ça ne peut arriver qu'à des êtres d'élite. C'est pour ça que les êtres d'élite sont parfois plus éprouvés que les autres, mais c'est dans des tranches très précises de leur vie et ça ne dure pas toute la vie, bien évidemment. Tout être profond, authentique, s'il fait le bilan de sa vie, reconnaîtra que la grande majeure partie de sa vie était plutôt dans la lumière que dans l'obscurité. Donc tout ça, c'est des questions de nuance. Il faut savoir comment gérer tous ces enseignements apparemment contradictoires et comprendre quelle est la place de chacun. Voilà, on va passer à quelques questions s'il y en a. Et sinon, on arrêtera le cours pour aujourd'hui. Pour ceux qui du live, du moins qui n'ont pris le cours que au milieu, je tenais à répéter pour tous les autres aussi qui écouteront le cours en différé que cette semaine, comme Nous approchons de Pourim, il n'y aura cours que dimanche, lundi et mardi. Mercredi, nous rentrons déjà dans la veille de la fête de Pourim avec un jeûne et avec préparation à Pourim. Donc, mercredi, jeudi et vendredi, c'est la fête de Pourim en Israël et partout ailleurs. Donc, en tous les cas, il n'y aura plus cours. Les cours reprendront dimanche prochain. Donc, trois matinées à 8h30 consacrées à ce Mahamar que j'approfondis, plus le cours de Cain, donc quatre cours sur Pourim cette semaine. On passe maintenant aux questions. Voilà, alors, Thierry, un très bonjour à toi aussi, on t'attend, je ne sais pas si tu es rentré déjà ou pas, en tout cas, on t'attend avec impatience. André 57, comment fait-on pour se connecter à notre être intérieur? Merci. Je pense que j'y ai répondu, mais je vais répondre. Il y a une aide qui ne vient pas de nous, c'est ce qu'on a appelé les épreuves. C'est Hachem qui choisit le moment et la manière et le comment et le pourquoi. Quand il sent que l'être est suffisamment fort, suffisamment préparé pour traverser une épreuve qui va le connecter à son être intérieur, l'épreuve arrive. Et aussi non, dans la vie de tous les jours, c'est justement une... construire sa vie sur des valeurs essentielles, profondes, intérieures. Et donc, tout ça, je le résume en un mot, que l'on soit juif ou que l'on ne le soit pas, c'est la Torah, bien évidemment, la Torah telle que les juifs doivent la vivre, la Torah telle que les non-juifs doivent la vivre, mais c'est bien sûr la Torah, les enseignements de la Torah, et l'intériorisation de ces enseignements pour se construire et avec de plus en plus d'intériorité. Alors, Boker Tov Rav, en ce moment nous avons des problèmes physiques, nous sommes dans le chemin de la conversion. Si je comprends bien, donc on vous met beaucoup de bâtons dans les roues, donc c'est que vous êtes sans doute sur le bon chemin, sur la bonne voie, parce que comme vous le savez, je veux dire, quand on veut créer des unités d'élite à l'armée, et ben on éprouve énormément les jeunes soldats, et sur 1000 qui rentrent, il n'y en a que 2 ou 3 qui sortent. Et donc c'est un petit peu la même chose, si j'ose dire. Être juif, c'est pas facile, et donc il y a pas mal d'embûches. Tout ça pour vous aider justement à être convaincu que vous voulez vraiment l'être, le devenir. Car comme vous le savez, le judaïsme n'est absolument pas prosélyte. Nous n'obligeons personne à se convertir. On n'est pas forcément mieux parce qu'on est juif. Et donc si vous voulez le devenir, il faut vraiment que vous en soyez convaincu, et c'est la raison pour laquelle sans doute vous avez des difficultés. Et que j'avais pas vu que vous continuez en disant c'est pour mieux avancer et réveiller notre essence absolument. André 57, quel cours, merci Rav, incroyable votre cours. Yohanan, le déguisement de Pourim est là pour prendre en dérision l'extériorité. Bravo Yohanan. C'est vrai, on se déguise à Pourim, c'est le carnaval que les chrétiens nous ont d'une certaine manière volé, puisque c'est pas que ça d'ailleurs, parce que pratiquement tout le judaïsme a été transformé et récupéré par l'Église. Mais quoi qu'il en soit, au départ, c'est nous les premiers qui nous déguisions, et on continue à se déguiser effectivement à Pourim. Et votre remarque est profondément juste. C'est pour porter en dérision justement l'extériorité, puisque qu'est-ce que c'est le masque? Et on se déguise d'une manière idiote, justement, pour se fiche de notre extériorité. Comme pour dire, tu sais, ben, toute l'année tu portes un masque. Là, à Pourim, tu le vois vraiment. Mais toute l'année tu portes un masque. Ce que tu montres, ce que tu crois être, c'est pas ton vrai toi. Donc, cherche ton vrai toi. C'est ça la notion du déguisement à Pourim, bien évidemment. Donc effectivement, je confirme tout ce que vous avez dit, Yohanan, c'est la raison pour laquelle encore une fois on se déguise, et pour porter en dérision justement notre être extérieur, qu'on essaie toujours de bien polir, de bien montrer, etc. Et ça me rappelle une histoire que je rapporte souvent. Je veux dire, bon, c'est vrai, je suis pas toujours très 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 poli dans mes cours, et des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais... Et quand on a commencé à m'écouter un petit peu avec mon langage pas très rabbinique, alors je sais que j'avais énormément de critiques, mais pourquoi un rabbin ne doit pas parler comme ça, monsieur Dinovich, etc., etc. Je rappelle que j'avais répondu, j'ai dit, écoutez-moi, d'accord, je deviens un homme public et je suis vu, entendu par des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être un jour des dizaines de milliers, plus encore. J'ai pas envie de jouer à la vedette. J'ai pas envie de me construire une image. Non, au contraire. Au contraire. Je ris de moi-même. Je veux justement pas qu'on me prenne pour un saint avec un T auréolé qui descend de je ne sais où. Non, je suis un être humain avec mes qualités, mes défauts. Vous me prenez tel que je suis, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, changez de rave. Nécouda. Et donc c'est exactement ce que je vous transmets. Ne prenons pas au sérieux notre image extérieure. Comprenons que tout ce qu'on montre, tout ce que vous voyez de moi et ce qu'on voit des autres, c'est uniquement un masque en vérité. L'être profond, véritable, il n'y a que le maître du monde qui le connaît, et moi si je veux bien le connaître. Mais ne nous prenons pas au sérieux dans notre être extérieur. C'est ça le masque de Pourim. Elisheva, quel cours extraordinaire. Il est vrai que l'épreuve construit l'homme. Merci Rav, merci Elisheva. Merci pour votre réponse. Magnifique cours, Marc Cohen. Bon, je suis écœuré que l'Église récupère toutes les fêtes juives. Vous savez, bon, ça fait 2000 ans que ça dure. On n'est plus à quelques années près. Bientôt la délivrance, Bezrat Hashem, avec le maître du monde. Et chaque chose volée reviendra à sa place. Et surtout, que l'identité de chacun d'entre nous revienne à sa véritable place. Qu'on arrive déjà à retrouver notre être intérieur, notre être véritable. Et ceci grâce à la Torah, grâce à la diffusion de la Torah. Merci à tous et à toutes. Et à très 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 bientôt, on se retrouve demain matin si Dieu veut, une très très bonne journée.